Bonjour à tous, bon lundi, il est midi et vous écoutez France Culture. Tout de suite, les titres du journal de 12h30 présentés toute cette semaine par Ludovic Piétenu. Bonjour Ludovic.
Bonjour Caroline et bonjour à tous. Nous parlerons dans le journal de 12h30 des primaires socialistes. Elles ont été annoncées ce week-end. C'est un changement de pied, une élection qui pourrait inclure au mois de décembre quelques candidatures de radicaux ou d'écologistes pro-gouvernement. On en parlera avec Frédéric Seyss du service politique de France Culture et notre invité sera Emmanuel Morel, eurodéputé socialiste. Nous interrogerons également l'invité de la seconde partie de la grande table, le sociologue Michel Vivorca, lui qui au mois de janvier, avec une quarantaine d'intellectuels, espérait un dégel de la gauche et réclamait l'organisation d'une primaire à gauche. Nous échangerons avec le politique et le sociologue longuement sur ce sujet. À la une également, compte à rebours en Grande-Bretagne à 3 jours du référendum pour ou contre une sortie du pays de l'Union Européenne. La campagne a repris hier, outre-Manche, après une courte pause consécutive à l'assassinat de la députée travailliste pro-européenne Jo Cox. Notre correspondant Franck Madvon nous décrira les divisions au sein du camp eurosceptique. En Italie, la victoire à Rome et à Turin du mouvement Cinque Stelle, 5 étoiles, formation populiste et anti-parti. À Rome, c'est une femme, Virginia Raggi, qui remporte la municipalité pour la première fois dans l'histoire de la capitale. C'est à Turin que la défaite est quand même plus lourde pour la gauche et plus lourde de sens aussi pour le président du Conseil italien, Matteo Renzi. On appellera notre correspondante permanente, Mathilde Imberti. Et puis Caroline, un chiffre sera décortiqué dans ce journal, 65 300 000, soit quasiment la population de la France. Ce chiffre est aussi celui record du nombre de réfugiés et de déplacés dans l'histoire du monde, un être humain sur 113. Rendez-vous à 12h30. Caroline Bruet, c'est à vous pour la grande table.
Et nous allons titiller vos papilles, cher Ludovic. Belle rencontre gourmande, en effet, en compagnie de deux créateurs qui, de la plume à l'assiette, explorent chacun à leur manière les propriétés gustatives des cuisines françaises et asiatiques. Simplement l'un des plus grands noms de la scène gastronomique asiatique actuelle, André Chiang, bonjour.
Bonjour.
Elle est écrivain et traductrice, c'est Ryoko Sekiguchi, bonjour.
Bonjour.
André Chiang, votre restaurant André à Singapour est considéré comme l'un des 50 meilleurs restaurants du monde et l'une des 5 meilleures tables d'Asie. Vous êtes en France pour 2 jours, un peu fatigué, vous venez d'arriver, parce que vous faites paraître chez Faidon le livre Octa Philosophie, les 8 éléments du restaurant André, un livre qui invite à la découverte d'une année dans les cuisines de votre restaurant où chaque plat est dédié à l'un des 8 éléments clés de votre art. Ryoko Sekiguchi, vous vivez entre vos deux cultures, japonaise et française. Vous avez traduit des recueils de textes japonais sur la gastronomie, le club des gourmets et autres cuisines japonaises paru chez POL en 2013. Vous avez écrit des livres comme La Voix sombre chez POL en 2015 ou Dîner Fantasma dont nous reparlerons peut-être chez Manuela Édition. Et vous venez de faire paraître Fade aux éditions d'Argol dont nous allons être amenés à parler au cours de cet entretien. Tout d'abord, j'aimerais vous demander à tous les deux quel est votre rapport à la France. Ryoko Sekiguchi, vous vivez en France. André Chiang, vous y avez fait votre éducation culinaire auprès de chefs étoilés, les frères Pourcel, Pascal Barbeau, les trois gros, Pierre Gagnaire, Joël Robuchon. Mais au-delà de cela, quel est votre rapport à l'un comme à l'autre, à la France, à la cuisine française, André Chiang?
En fait, mes parents sont taïwanais, je suis né à Taïwan, j'ai quitté quand j'avais 13 ans. Après, je suis passé 2 ans au Japon et je suis arrivé en France quand j'avais 16 ans. Donc, je suis resté pas mal de temps au sud de la France. Ensuite, je suis monté à Lyon, Paris. Donc voilà, j'ai quitté Paris il y a 8 ans. Donc je suis arrivé à Singapour, donc j'ai commencé mon business.
Pourquoi Singapour?
Parce que c'est marrant, parce que je passais mon 30e anniversaire quand j'étais à Paris. Et donc, le lendemain, je me lève, je dis, bon, André, t'as 30 ans, qu'est-ce qu'on fait? C'est un peu la crise. Je me suis dit, on j'ai jamais pensé à ça. Je croyais que je veux rester en France toute ma vie. Et c'est là, je me suis dit, toujours, on me demande, André, tu viens d'où? Et je dis, bon, je suis de Taïwan, mais je connais rien du tout de Taïwan ou d'Asie, en gros. Donc, je me dis, si c'est toujours une chose qui est manquée de moi, être asiatique, mais je connais pas du tout Asie. Donc, voilà, comme c'est une autre étape, comme j'ai passé mon 30 ans, je me suis dit, pourquoi pas, je rentre en Asie et commencer mon business. Qu'on a parlé presque, il y a presque 10 ans. Donc, je dis peut-être Singapour, c'est mieux, parce que c'est quand même une ville très cosmopolitaine. Et aussi, ils sont très ouverts pour au niveau de culture.
C'était peut-être plus facile à Singapour de faire une cuisine qui est une cuisine entre la France et l'Asie.
Oui, oui.
C'est ça?
Oui, et surtout pour moi, je connais pas très bien le marché en Asie, et je pense Singapour c'est plus simple. On n'a pas de culture shock quand je suis arrivé. Donc voilà.
Ryoko Sekiguchi, votre rapport à la France?
Alors, je réponds chaque fois qu'on me demande pourquoi vous avez appris le français. Je dis que je pensais qu'en apprenant le français, j'allais bien manger. Et là, c'est vrai que je ne regrette pas. Mais ce que je ne savais pas, c'est que qu'en apprenant le français, j'allais bien boire. Donc ça aussi. Mais en fait, cela vient du fait que ma mère était cuisinière, avait une petite école et que je faisais aussi, donc je préparais pour elle les fiches de lecture, les fiches pour ses cours. Donc, par exemple, en cherchant sur ses plats l'étymologie, l'histoire. Mais à l'époque, je faisais à part la littérature et la cuisine, je ne pensais pas qu'un jour j'allais écrire quelque chose sur les légumes. Mais c'est vrai que donc à la fois mon grand-père est éditeur et ma mère était cuisinière. Donc en fait, en addition, c'est doux. Je fais mon métier. Donc je mène
avec
un petit combat.
Le goût de la cuisine et des mots qui voilà. Vont avec, que vous partagez aussi. André Chiang, d'ailleurs, votre mère aussi était cuisinière. Votre mère est très présente dans Octophilosophie. Elle signe le texte d'ouverture en hommage à son fils. Oui. Vous avez appris ce goût de la cuisine et des mots par votre mère aussi?
Oui, en fait, mais j'ai grandi dans une famille artiste. Ma mère, elle était chef. Mon père... Il est le calligraphe chinois. Mon frère, c'est un acteur. Ma sœur qui fait un design pour les vêtements. Et moi, je suis très intéressé par les sculptures et les portraits. Donc moi, je fais tous les assiettes et les portraits pour mon restaurant. Donc voilà, en fait, j'ai commencé comme ça, comme ma mère elle voulait passer son restaurant à moi. Donc moi je dis bon, ok, je vais essayer. Donc j'ai commencé dans le restaurant de ma mère quand j'avais 13 ans
et vous avez continué.
Et voilà, après j'ai décidé de partir de Taïwan et arriver en France et apprendre la cuisine française.
Alors ça, c'est un vrai point commun que vous avez tous les deux, outre ce goût pour la cuisine, ce goût pour les mots, c'est évidemment cette navigation constante entre la France et l'Asie, entre la France et la Chine, entre la France et le Japon. Ce qu'on voit d'ailleurs, Ryoko Sekiguchi, dans votre petit livre sur la fadeur, puisque dans Fade, vous réfléchissez à la notion de fadeur, mais à travers faire la comparaison entre les deux cuisines françaises et japonaises. Et vous expliquez en quoi, ici, le fade est lié à quelque chose qui est péjoratif, souvent négatif. C'est le sans-saveur, ici, le fade. C'est même l'ennui. Ça va beaucoup plus loin, d'ailleurs, que simplement le sans-goût. Alors que, dites-vous, au Japon, c'est très différent.
Oui, déjà, je pense qu'en fait, ce qu'on croit comme fade en France, pour nous, pour les Japonais, ils ont bien un goût pour chaque produit. Et puis aussi ce que parle par exemple aussi André dans votre livre, la texture, la notion de texture est très importante pour nous. Et parfois, moi, j'appellerais toujours quelque chose comme gustavocentrisme. C'est-à-dire que si on met, on donne trop d'importance seulement au goût dans un produit, alors on oublie d'autres aspects de la vie d'un produit. Alors que, bon, par exemple, un produit peut être intéressant seulement par sa texture et sans avoir forcément trop de goût. Et je pense que la variété de vocabulaire en japonais par exemple, exprimant la sensation d'un produit qui passe sur dans la gorge, il y a même un terme comme ça, un nodogoshi, pour dire que c'est la sensation de quelque chose qui passe dans la gorge.
Mais la cuisine française, selon vous, accorderait trop d'importance au goût par rapport à tout le reste?
Non, je ne dirais pas ça, mais je pense que c'est le mot en disant c'est fade, on donnerait trop d'importance au goût.
André Chiang, sur cette notion de fadeur et sur ce que venait de dire Ryoko Sekiguchi, l'importance de la texture, puisque la texture fait partie des 8 notions clés pour vous.
Pour texture?
Oui.
Pour moi, texture, c'est le temps voyage. Pourquoi tu dis ça? Parce que quand on voit de chaque texture, c'est les méthodes différentes et ça nous donne le temps. Par exemple, comment on va cuire une chips, comment on va cuire une viande. Ça donne des textures différentes. Donc pour moi, c'est le temps qui voyage sur un produit et de façon différente. Et ça donne des textures différentes.
Ryoko Sekiguchi disait que la fadeur en France était liée au goût.
Oui.
Et que dans la cuisine japonaise, la fadeur n'est pas nécessairement négative et qu'il existe une quantité très vaste, très variée de mots pour décrire les goûts, les saveurs et même les textures. Qu'en est-il dans la cuisine chinoise?
Je pense que c'est complètement différent. On est dans d'autres côtés très opposés. Pour la cuisine chinoise, moi, je pensais toujours c'est beaucoup assaisonnement, des fois trop. Donc on a une culture très très riche, donc des saveurs très riches. Il y a toujours beaucoup d'ingrédients qui se passent, beaucoup de saveurs qui passent dans la cuisine chinoise. Comme moi je connais, je connais pas trop, mais je parle de mon
expérience gustative à vous. Oui.
Oui, en France.
Donc, oui, parce que dans le livre, André, je pense que vous parlez plutôt de la pureté. Donc ça, la cuisine chinoise n'est pas votre cuisine et que dans la pureté, donc il peut avoir aussi cette notion, peut-être pas le fade, mais quelque chose d'une délicatesse du goût, où ce n'est pas nous, en fait, qui, tout en étant assis confortablement et que le goût violent arrive, attaque, mais que c'est nous, en fait, qui allons vers le goût et qui écoutons le murmure du goût. Donc, je ne sais pas si dans votre notion de pureté, il y a ce côté-là.
Alors, la notion de pureté, qui est la deuxième des huit, André Chiang.
Oui.
Qu'est-ce qu'elle recouvre pour vous, la notion de pureté ?
Notion de pureté, en fait, c'est pas simplicité. Moi, je pense des vraies puretés, c'est on les remplit à l'entier, après on enlève. C'est des vraies puretés. Des fois, on pensait toujours de pureté, c'est la simplicité. Si on met un ou deux saveurs dans l'assiette, on met un ou deux, c'est très minimal de produits sur l'assiette ou même couleur. Je pense des vraies notions de pureté, c'est de le remplir à 100%. Et après, on enlève ce qui n'est pas nécessaire sur l'assiette.
Alors ça,
vraiment, c'est un élément de très essentiel.
Ça, c'est presque un trait culturel quand on réfléchit à ces différences entre la cuisine française et la cuisine asiatique, parce qu'on dit souvent que la cuisine française fonctionne par addition, là où, par exemple, la cuisine japonaise fonctionne par soustraction. Et il est un gastronome chinois qui vit à Paris, qui s'appelle Yu Zhu, qui a écrit La baguette et la fourchette, qui dit que le plat français le plus chinois est sans doute le cassoulet, car on y procède par addition des saveurs qui habituellement sont plutôt séparées dans les plats français, tandis qu'en Chine, le mélange d'ingrédients coupés petits provoque une saveur inédite. Alors, sur cette différence entre cuisine par addition et cuisine par soustraction, André Chiang, ça correspond à ce que vous venez de dire. Vous enlevez pour atteindre à la pureté, à la simplicité, c'est ça? Mais c'est
oui,
l'inverse de la cuisine française.
Exactement, yeah. Et je pense que c'est très important, c'est un des plus importants éléments dans ma philosophie. Oui.
Ryoko Sekiguchi.
Alors, je pense que, en fait, par soustraction, on n'est pas moins, je pense. Et comme il dit, il est entier. Parce que parfois, donc, justement, on est plus sensible à chaque goût. Et je pense toujours qu'un chaque produit, finalement, était un être vivant. Il n'y a pas un produit qui n'était pas vivant de ce qu'on mange, sauf le sel.
Le sel, oui.
Voilà. Le sel et le sol, parce que l'aliment qui n'était jamais vivant et que qu'on mange, non, n'est-ce pas?
Bah, la viande.
Bah, la viande, bah, la, non. La, donc, tous les aliments étaient vivants. Vous voyez? Sauf le sel, qui était un
animal. J'avais compris l'inverse, voilà. Pardon. Le sel, justement, est un des troisièmes ingrédients de votre cuisine, décidément. Le sel, que représente-t-il pour vous, André Chiang?
En fait, ici, on parle pas de quel type de sel qu'on utilise. En fait, c'est un élément, on parle de le goût vertical. Donc, un goût vertical de goût salé. Ça veut dire qu'on n'utilise pas du sel, mais des éléments de vertical avec du sel. Ça veut dire...
Là, je ne vous suis pas.
Okay.
Là, je n'ai pas compris.
Ok, je vous l'explique. Par exemple, du jambon, anchois, sauce soja, ou les olives. Donc, nous, assaisonnons. Donc, dans cet élément, dans cet plat, on n'utilise pas du sel. Si on fait une assiette de l'asperge et on utilise les éléments salés, verticales, pour assaisonner les asperges, et ça donne une dimension différente à chaque fois. Ça veut dire, par exemple, je assaisonne l'asperge avec les olives à la place du sel. Ou les anchois, ou jambon. et ça change le goût. Mais ça va pas changer l'objectif de l'assiette d'asperge.
Vous avez l'air de bien suivre Ryoko Sekiguchi.
Parce que par exemple dans la cuisine japonaise, on utilise beaucoup d'assaisonnements fermentés. Et donc au lieu de mettre du sel, bien sûr, on met de sauce soja, on met de il y avait enfin traditionnellement il y avait beaucoup de types de d'assaisonnements comme sauce soja, mais qui était en fait comme par exemple une sorte de garum donc de l'antique romain et en fait qui donnait aussi le goût et qui est plus rond, plus ample, je dirais peut-être pas vertical puisque qu'il est fermenté et c'est vrai que c'est plus intéressant que de donner du simple sel au plat.
Puisqu'on navigue ici entre les goûts, les mots et les différences entre ces cuisines françaises et asiatiques, il est une autre différence de taille, c'est la langue. Alors évidemment, l'un et l'autre, vous êtes bien placés pour en parler, surtout que Ryoko Sekiguchi, vous êtes écrivain et traductrice, encore une fois. Et vous dites que la France privilégie un jeu sujet mangeant, là où, par exemple, encore une fois, la cuisine japonaise parle plus volontiers des ingrédients de la cuisine. Comme si, en France, on était plus tourné vers soi, en train de manger. Et le japonais est sans doute plus altruiste, je ne sais pas, il va plus vers les aliments. Vous pouvez nous expliquer ça?
Bien sûr, en disant ça, enfin, je ne fais pas la critique de la France. Et puis en plus, maintenant, les Japonais mangent n'importe comment. Mais en fait, dans l'esprit, je veux dire que, en tout cas, dans ce qui s'écrit, quand on dit, par exemple, c'est fade, c'est vous qui décidez que cet aliment... fade.
C'est subjectif,
n'est-ce pas? Et que c'est voilà. Donc moi, je pense que c'est fade. Alors que je pense que dans la cuisine japonaise, parfois quand on parle avec les chefs japonais, j'ai l'impression qu'ils mettent ses produits au même rang que lui-même. Et une fois, j'ai posé la question à un chef qui cuisinait l'ours, la viande d'ours, chose qui est assez rare au Japon. Et j'ai dit, alors, quel procédé, quelle méthode vous préférez pour la viande d'ours? J'ai dit, et il a dit, il n'y a pas de préférence pour moi. Donc si je ne fais pas bien la cuisine, enfin de la viande d'ours, c'est de ma faute. Et c'est de ma faute de ne pas pouvoir mettre en valeur la potentialité de cette viande. Et je pense qu'il y a ça aussi, non pas chez tous les Japonais, mais chez beaucoup de chefs japonais.
Qu'est-ce que vous en pensez, André Chiang? Vous avez cette impression que... Alors, vous connaissez moins la cuisine japonaise, mais disons entre Taïwan, Singapour et la France, que vous connaissez bien, malgré tout, que la langue française est à la fois plus robuste, comme le dit Ryoko Sekiguchi, et plus tournée vers la personne qui mange que les cuisines dites asiatiques, même si elles sont très, très nombreuses.
Moi, je pense que la langue française, c'est beaucoup... très émotionné pour moi parce que c'est comme comment on fait la cuisine, il faut commencer à parler de comment on fait la cuisine française ou la cuisine asiatique ou la cuisine chinoise. Je me souviens quand j'étais dans le restaurant de ma mère, j'ai commencé par sa cuisine, on parle toujours de technique. Comment être pareil toujours, comment être fait un croustillant, et ça soit toujours pareil. Beaucoup de techniques sur la cuisine chinoise. Donc quand chaque fois on mange, on sent toujours, on pense toujours les techniques. Mais quand je suis arrivé en France, la première chose, c'est mon chef, il m'a dit, bon, on va aller au marché, on va faire rencontrer le monsieur qui fait les légumes, on va voir le poissonnier, après on va sentir les légumes. André, qu'est-ce que t'en penses? Je dis, bon, je sais pas, parce que quand j'étais avec ma mère, elle me demande pas qu'est-ce que je pense. C'est, voilà, André, on fait comme ça. Et donc voilà, donc il y a beaucoup de sentiments quand chaque fois on crée un plat, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'imagination. Là j'ai pas trouvé ça donc ça change de goût quand chaque fois qu'on mange. Il y a l'imagination, il y a création dedans, c'est très très différent.
Ryokose Kikuchi.
Oui, en fait, j'ai une question à André sur la saison, si c'est possible.
Mais bien sûr.
Parce que en lisant votre livre, il y a une chose qui m'a vraiment intriguée, parce que vous expliquez que dans votre île, là où il y a le restaurant, donc les saisons n'existent presque pas, et que aussi donc l'agriculture est très limitée, et donc vous importez beaucoup de produits, et que et je trouve très intéressant à réfléchir, parce que en ce moment, enfin je ne dis pas les chefs, mais plutôt enfin beaucoup de discours sur la communication marketing disent alors nous on travaille avec les produits de saison, mais est-ce que qu'on a vraiment réfléchi ce que c'est que la saison, et est-ce que ça veut dire que ce sont des produits qui sont sur le marché, est-ce que ce sont des seulement sur le marché qui ne sont pas au marché, mais qui traditionnellement était dans à la saison. Et alors pourquoi en fait vous introduisez la saison dans l'île où ça n'existe pas? Peut-être en fait
remettez les saisons dans l'assiette.
Bah oui, vous pouvez peut-être faire des plats en fait sans tenir compte de saison aussi.
André Chiang.
Ok, donc il y a deux choses. Première chose, c'est à Singapour il y a pas de saison, on a que d'été. Donc, soit quatre saisons, c'est chaud, très chaud, hyper chaud. Donc, voilà, c'est les quatre saisons à Singapour. Moi, je trouve que c'est hyper important de remettre les saisons sur l'assiette. Parce qu'on n'a pas de saison. Donc, c'est la seule chose qu'on peut adapter. On peut sentir, voilà, aujourd'hui, on est en été, ou on est en hiver, c'est Noël, on est un nouvel an. Donc, c'est important de rappeler ces ondes qui nous donnent pas seulement du produit, aussi des mémoires.
Mais c'est-à-dire que c'est les saisons pour vous, c'est la saison que vous avez vécue en France? Parce que Noël peut être chaud aussi.
C'est un lien avec la France. C'est un lien avec la France pour vous.
Ça dépend, parce que nous, tout simplement, on a la majorité des produits, c'est d'Europe et du Japon, et ils partagent les mêmes saisons. Donc on suit la saison du produit.
En tout cas, il y a bien un plat qui ne suit pas nécessairement les saisons. C'est votre dessert signature, André Chiang. C'est le camembert avec la glace au foin.
Oui.
Ça vous rappelle la France quand même.
Oui, et c'est quelque chose qu'on a créé après que je suis arrivé en Asie. C'est marrant parce que quand je suis arrivé en Asie, et nous on voulait faire comme tous les restaurants français, on respecte la tradition en France, qu'après le repas on prend un peu de fromage. Dans chaque restaurant français, il y a toujours une assiette de fromage après le repas. Mais ce que je trouvais, même partout en Asie, soit sur au Japon ou en Corée ou en Chine, on est dans un restaurant français, donc on est obligé de prendre un peu de fromage. Soit on aime ou on n'aime pas. Donc on voit très bien des gens qui est pas habitué d'avoir des fromages d'artisans ou fromages affinés, mais ils ont force de goûter et après ils le mettent à côté. Donc est-ce que c'est Est-ce que c'est bien de mettre quelque chose que des gens qui ne le plaît pas?
Bah, le goût, ça s'éduque. L'idée, c'est aussi ça, sans doute.
Oui.
Le goût s'apprend, le goût se travaille.
Oui. Le
goût
et s'éduque. Le deuxièmement, c'est que pour moi, une expérience de Restaurant André ou d'un restaurant, c'est d'avoir une culture chaque fois qu'on explique qu'est-ce qu'on fait. Et mes fromages, c'est des choses qu'on achète et puis on met une deux tranches pour le client. Il n'y a aucun effort de chez nous.
Merci beaucoup, André Chiang, d'être venu au micro de la grande table. Octaphilosophie, l'essence de votre philosophie culinaire. On a parlé de la pureté du sel, de la texture, mais il y a aussi l'artisanat, la mémoire, le sud, le terroir et l'unicité. Merci d'être venu au micro de la grande table. Vous signez avec Lotta Jorgensen ce livre, Octaphilosophie, chez Faydon. Vous serez cet après-midi à 15h30 à la librairie Gourmande, rue Montmartre, à Paris. Ce soir et demain, au Cuisine du Porte 12 à Paris, qui est votre restaurant parisien avec le chef Vincent Crépel pour un dîner et un déjeuner à quatre mains. Et puis demain matin à l'école Ferrandi à 10h pour une démonstration rencontre. Il faut aller sur le site de l'école encore pour s'inscrire. Merci à vous Ryoko Sekiguchi. Je rappelle le titre de ce livre sur la fadeur, comparaison entre cuisine française et cuisine japonaise. Le fade donc aux éditions Les Ateliers d'Argol. Merci à vous.